écoutez IDFM en DAB+, DAB+, sur toute l'Île-de-France. Bonjour à tous, Jacqueline Vorace sur Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bienvenue sur IDFM Radio, la radio en FM et en DAB+, pour mieux nous suivre dans le monde entier. Association 60 000 rebonds, sa jeunesse, ses objectifs, ses partenariats seront jusqu'à 11h au cœur de l'économie en direct de ce vendredi 13 janvier. Avec moi pour en parler, Frédéric Enfray. Bonjour Frédéric.
Jacqueline.
J'ai l'impression que ça fait une éternité que vous n'êtes pas venu à l'antenne, Frédéric.
Et oui, parce que on se relaye pour que tout le monde vienne porter le message de l'association à sa façon et avec son cœur.
En tout cas, merci d'être fidèle au rendez-vous de l'émission. Vous êtes le PDG du groupe AGP. Vous êtes responsable de 60 000 rebonds Val d'Oise. L'occasion ce matin de nous rappeler la jeunesse de cette communauté de bénévoles qui s'est donnée pour mission d'aider les entrepreneurs post-liquidation à se reconstruire et rebondir par le biais d'un accompagnement très personnalisé. À vos côtés, on le prend sur le fil, Jean-François Benon. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Merci, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau dans nos studios. Vous êtes directeur général du CEVO, l'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise.
Oui, tout à fait.
Vous nous expliquerez comment, grâce à vous, cette antenne de 60 000 rebonds Val d'Oise a vu le jour et continue aujourd'hui de bénéficier de relations privilégiées. Voilà, c'est ce que vous nous expliquerez dans quelques instants.
Avec plaisir.
Et pour finir, à vos côtés, Paul Nathan. Bonjour Paul.
Bonjour Jacqueline.
Ravi de vous accueillir ce matin, Paul, en tant que coprésident au réseau Entreprendre, un concept d'accompagnement entrepreneurial de pair à pair, dont vous nous retracerez également les origines, les objectifs et son positionnement vis-à-vis de 60 000 rebonds.
Avec plaisir.
Dans quelques minutes, au téléphone, Brieux Maisonneuve nous fera un point de situation sur l'endroit où se trouve son bateau. Et donc, bienvenue à tous et merci d'être les invités en direct de ce nouveau numéro de l'économie en direct. Et sans plus attendre, nous allons retrouver Brieux Maisonneuve, skipper professionnel participant de la Route du Rhum sous pavillon CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat et 60 000 rebonds. Bonjour Brieux. Ah non, je n'ai pas Brieux. Bonjour Brieux.
Oui, allô.
Oui, bon, vous m'entendez ?
Oui, très bien, Jacqueline.
Bonjour, tous mes voeux Brieux pour cette nouvelle année.
Tout pareil.
Comment allez-vous Brieux ?
Eh bien écoutez, on est en ligne là ou on est...
Oui, on est en ligne. Vous nous dites tout.
Tu peux tout dire là maintenant.
Bon, eh bien écoutez, ça va, mais c'est quand même très compliqué.
Oui, je comprends.
Sur pas mal de niveaux, puisque mine de rien, les conséquences du chavirage ont laissé des séquelles, tant sur le plan financier évidemment, personnel et physique. Et là, j'étais opéré le 28 décembre, et vous voyez, je raccroche avec le chirurgien, et je pense que je vais devoir y retourner dès lundi prochain.
Ah, parce que opéré de quoi ?
J'avais une éventration.
Ah, d'accord.
J'avais été opéré plutôt dans l'année d'un petit problème, et la cicatrisation de mes abdominaux, quand je suis monté sur le bateau de Jean-Pierre Dick, a cédé, et du coup, je me suis trouvé avec une hernie sur le devant de l'abdomen, et je vous passe les détails, c'est assez moche.
Voilà,
il a fallu réparer tout ça, et je crois que malheureusement, c'est pas fini.
Oui, comme disait Jacques Chirac, les emmerdements, ça vole en rafale.
Oui, voilà, exactement. Donc,
et les nouvelles de votre bateau ?
Eh bien, écoutez, malheureusement, pas de nouvelles.
Pas de nouvelles.
À ce jour, eh bien, ça fait exactement 2 mois, jour pour jour, que j'ai chaviré. Et les dernières personnes qui ont vu le bateau, c'est Jean-Pierre Dick et moi. qu'on est reparti après qu'il m'ait récupéré. Donc, et depuis, on a été, on n'a jamais réussi à le relocaliser.
Oui, oui. Donc, et le au niveau de la météo, ça, ça s'est peut-être pas arrangé en plus.
Non, bah, on est toujours dans un régime très perturbé. Mmh. On n'a jamais eu les conditions pour pouvoir intervenir, puisque le bateau est très loin des côtes, et à chaque fois, on a eu des conditions météo qui étaient dantesques. Mmh. Pour la petite histoire, il y a un bateau exactement identique au mien qui a chaviré en équipage le soir de Noël au large de Madère.
Oui.
Bon, ils étaient beaucoup plus près des côtes et dans des conditions beaucoup plus clémentes. En 3 jours, le bateau a été récupéré,
oui,
remis à l'endroit.
Mmh. Oui. Et pour votre activité, alors, vous avez une solution? Vous allez louer peut-être un bateau, non, pour continuer?
Ben alors, malheureusement, c'est très complexe parce, oui, que mon montage économique fonctionnait parce que c'était un bateau performant et voilà, et c'est pas des bateaux qui sont disponibles à la location comme ça sur le marché.
Ah, oui, d'accord.
Donc au mois d'avril, j'ai réussi à sauver une croisière, mais sinon j'étais obligé de déprogrammer toute ma saison. Donc bah, c'est toujours quelque chose qui fait un peu le cœur, oui, puisque c'est un fonds de commerce que j'avais bâti depuis 3 ans et voilà. Là, malheureusement, je vais être obligé de fermer l'entreprise.
Ah oui, carrément. Je crois que Frédéric voulait vous faire un petit coucou.
Bonjour, bonjour Brieux, on s'est eu
ouais,
il y a quelques
bonjour,
jours.
Frédéric, comment vas-tu?
On s'est eu il y a quelques jours au téléphone. Je suis désolé pour toi que tu repasses sur le billard et que ça. Mais enfin, je pense que c'était indispensable. Et il faut pas oublier que t'étais, pour tout le monde, que t'étais quand même en tête de ta catégorie quand t'as chaviré et que t'étais pas non plus au mieux de ta forme à ce moment-là. Donc c'est quand même assez exceptionnel ce que t'as fait.
Ouais.
Voilà.
Mm-hmm.
Merci. Ouais, ouais. Bah, c'est bon. En plus, j'y allais assez prudemment, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Oui. Oui.
L'objectif était vraiment c'était de pas chavirer, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, bah, il faut rebondir. Donc, avant-hier, pour la première fois en 22 ans, je suis allé passer un entretien d'embauche. Ça fait toujours bizarre, hein, puisque j'ai toujours travaillé depuis 22 ans. J'ai,
oui,
toujours été indépendant.
Mm-hmm.
Et voilà, mais ça s'est bien passé, donc peut-être que je vais retrouver un emploi salarié pour rebondir.
Pour les semaines à venir. Bon, en tout cas, on admire aussi votre état d'esprit, hein, et toujours battant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, Brieux?
Ouais, je crois que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Avoir des pensées positives.
Oui, oui, oui. Et puis, rester en contact avec vous le plus souvent possible.
Oui, c'est très sympa, Jacqueline.
Bah, je vous en prie. Frédéric veut.
Oui, je trouve que c'est toujours un bonheur de t'avoir au téléphone, parce que t'as une voix extrêmement posée malgré tous les lots d'emmerdements. Et c'est extrêmement rassurant, et de se dire que nos petits problèmes par rapport aux tiens sont pas grand chose, et tu le prends avec une philosophie assez exceptionnelle à chaque fois que je suis au téléphone. Voilà.
J'ai trouvé, je crois, la meilleure des thérapies pour ce genre de... Enfin, quand il vous arrive une catastrophe comme ça, je suis en train d'écrire un livre. Là, bien d'accord,
oui.
Hein, ça va pas être de la grande littérature. Hein, ça sera pas...
Oui, un témoignage.
Stéphane Zweig,
oui.
Jacqueline.
Ouais. non, mais un témoignage, c'est toujours...
L'idée, c'est de raconter un peu cette histoire. Et du coup, en remettant un peu tout à la fois, mais mon expérience de chef d'entreprise et puis mes aventures sur la route du Rhum, ça me fait revivre un peu tout ça, et je réalise que j'ai vécu des très très bons moments, et que si on fait la balance entre la liste des emmerdes entre guillemets et des bons moments, et ben la balance est quand même très positive pour les bons moments, et spécialement l'année 2022, quand beaucoup de gens m'ont souhaité dans leurs vœux, en me disant, bah, écoute, Brieux, on te souhaite une année 2023 bien meilleure que 2022, mais en réalité, 2022, pour moi, a été une année exceptionnelle, oui, avec plein d'aventures enrichissantes, mais et elle ne peut pas se réduire à ce chavirage et ces quelques ennuis de santé.
Oui, et puis alors 2023 ne fait que commencer, donc vous avez toute l'année pour rebondir. Et puis quand le livre sera terminé, vous venez nous le présenter, hein, chez IDFM Radio.
Avec grand plaisir, je viendrai physiquement ce coup-là.
Oui. Frédéric,
oui, je voulais rajouter quelque chose, c'est que parmi les sponsorings qu'il a eu, il a eu la Chambre des Métiers, puisque le bateau s'appelle Chambre des Métiers Île-de-France 60 000 rebonds, et ça serait assez intéressant que tu nous racontes aussi ce que tu fais avec la Chambre des Métiers, avec avec les centres d'apprentissage.
Ouais, bah tout à fait. Bah là, j'avais eu l'occasion d'intervenir déjà en décembre et je vais y retourner tout début février dans un CFA pour présenter cette aventure de la Route du Rhum, partagée avec les étudiants, leur faire vivre au plus près cette course fabuleuse et répondre à toutes leurs questions.
T'avais la Chambre des Métiers, je crois, qui avait affrété des cars pour t'emmener les étudiants jusqu'à ton bateau avant le départ.
Ouais, en octobre, j'ai 250 apprentis qui sont venus d'Île-de-France pour voir le bateau. On a passé une journée ensemble à visiter, à leur expliquer, à leur montrer la différence entre un bateau de course et un vieux gréement, puisqu'on avait la piscine de Granville, qui est un bateau de pêche traditionnel qui était à côté. Et ça a été une super expérience, d'autant plus que pour beaucoup de ces jeunes, malheureusement, c'était la première fois qu'ils voyaient la mer. Donc ça a été un grand moment.
Et IDFM Radio s'est engagé aussi à promouvoir les CFA les centres de formation de la CMA. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une action commune aussi, Brieux.
Ah bah ce serait exceptionnel.
Bah écoutez, on va y travailler. Merci infiniment, Brieux, d'avoir accepté de nous répondre ce matin. Et puis encore tous nos vœux pour cette année. Et puis portez-vous bien.
Prends bien soin de toi.
Oui.
À bientôt.
Merci, Brieux. Jacqueline. Merci, Frédéric. À très vite.
Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Voilà, une pause très courte avant de retrouver Frédéric Canfray et ses invités pour parler plus en détail de 60 000 rebonds, puisque si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct et c'est sur IDFM Radio, en FM, DAB+, et sur notre appli. Le thème de ce jour, 60 000 rebonds, avec à mes côtés Frédéric Canfray, PDG du groupe AGP, Jean-François Benon, directeur général du CEVO, Paul Nathan, coprésident réseau Entreprendre 95. Alors, Frédéric Canfray, avant de découvrir avec Jean-François Benon comment cette association a vu le jour dans le Val-d'Oise, voulez-vous nous rappeler quand même les fondamentaux de ce
Alors, les fondamentaux, c'est parti d'un chef d'entreprise qui avait été en liquidation judiciaire et qui s'était aperçu que l'image en France était extrêmement négative et que l'image aux États-Unis, c'était un plus d'avoir l'expérience d'une liquidation. Et il s'est dit, il manque quelque chose pour que quand on est en liquidation, finalement, on est un peu pestiféré en tant que chef d'entreprise. Alors déjà, on est isolé socialement puisqu'on n'a plus rien à offrir, donc on est plus beaucoup invité. Et moralement, financièrement, à tout point de vue, c'est extrêmement difficile. Et donc l'idée, c'était de créer une association de main tendue avec du coaching, des réunions régulières, un par un. Et en fait, finalement, d'encadrer la personne pour qu'elle fasse un travail sur elle-même et qu'elle arrive à s'en sortir. Et l'accompagnement est totalement gratuit et dure 2 ans.
2 ans, oui.
Voilà.
C'est ça.
Et il y a quelques permanents qui font tourner la boutique, mais sans ça, il y a énormément de bénévoles de tous métiers, et retraités, pas retraités, chefs d'entreprise, pas chefs d'entreprise, qui viennent apporter un peu de leur temps. Voilà.
Oui, un accompagnement professionnel individualisé qui
Tout à
est
fait.
Destiné à dépasser le triple traumatisme personnel, professionnel, économique.
Tout à fait. Voilà, tout à fait, avec toujours la grande difficulté quand les gens arrivent, qui est le grand vide depuis que l'entreprise est fermée, parce que liquidation judiciaire, je rappelle, ça veut dire je donne les clés de l'entreprise au propre et au figuré, donc d'un seul coup j'ai plus d'accès, j'ai plus rien, et voilà, et les gens ont besoin de parler, ont besoin aussi de, il y a un encadrement avec ceux qui sont passés par là il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, qui commencent à remonter la pente, donc il y a beaucoup d'échanges Parce que mine de rien, si on n'a pas vécu ce genre de situation, on peut tangenter avec ce genre de situation, mais tant qu'on les a pas vécues, on l'a pas vécu. Donc c'est ceux qui y sont passés qui en parlent le mieux quelque part. Et voilà, c'est plutôt bon enfant et il y a un taux de réussite quand même assez élevé.
Voilà,
alors il y a quelques personnes qui finalement n'adhèrent pas parce qu'il faut quand même adhérer à une forme d'esprit de groupe, ce qui est pas toujours évident aussi. Et aujourd'hui, globalement, il y a une personne sur deux qui retrouve un emploi salarié et une personne sur deux qui recrée. Alors pas toujours avec les mêmes niveaux de rémunération, bien évidemment, mais voilà, ça permet de rebooster. Et ceux qui sont plus en avance et qui sont pas loin de sortir du programme d'accompagnement et qui ont réussi entre guillemets un rebond, servent d'entraînement à ceux qui viennent d'arriver et qui ont à l'instant T pas beaucoup d'espoir, ils sont au fond du trou.
Voilà. Le but de l'émission étant aussi de toujours parler de ce 60 000 rebonds et que si des auditeurs ou auditrices nous écoutent, ils savent qu'ils peuvent.
Oui, on est facilement joignable par téléphone. On reçoit après les appels et on a les gens au téléphone. Donc quand on est chef d'entreprise et qu'on parle à quelqu'un qui est passé par là, on m'a déjà posé la question. Pourquoi vous le faites? Tout simplement parce que demain ça peut être nous, quoi.
Oui,
c'est aussi simple que ça. La période économique qu'on vit est tellement aléatoire. On voit des retournements de situation extrêmement rapides parce qu'il y a des changements de paradigme, d'activité et autres. On n'a pas forcément démérité parce qu'on est en liquidation. Il n'y a pas forcément plein de fautes. Il y a des entreprises où fabriquer des pièces de moteur de voitures thermiques, on passe à l'électrique. L'outil industriel n'est pas transformable pour la voiture électrique, voilà, c'est, il y a tout un tas de choses comme ça, et ça permet aussi, à titre personnel, ça permet aussi de relativiser la perception qu'on a sur nos propres ennuis, qu'on souvent on exagère peut-être un peu, et puis se dire finalement qu'on n'est pas si malheureux que ça, voilà, donc c'est enrichissant aussi à titre personnel de bénévole.
Oui. Voilà. On en parlera aussi peut-être tout à l'heure avec Jean-François Benon et puis Paul Nathan. La période n'est pas favorable en plus aujourd'hui.
Non,
crise énergétique.
La période n'est pas favorable. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de gens qui viennent nous voir. Parce que mine de rien, c'est pas forcément naturel quand on a été chef d'entreprise, qu'on a été seul leader, d'aller pousser une porte pour que quelqu'un nous tende la main, c'est pas naturel. Et aujourd'hui, moi, ce que je souhaiterais, c'est que les personnes qui ont dans leur entourage, amis, famille, des chefs d'entreprise qui sont passés par là, faut pas hésiter à les pousser à venir nous voir. Après, ils viennent, s'ils veulent pas ou s'ils sont pas mûrs à l'instant T, ils viennent pas. Mais c'est important très vite après la liquidation, dans les premières semaines, de pas couper le lien, parce qu'après on s'enferme dans un cercle et c'est quand même compliqué. Et souvent on n'est quand même pas très loin de la dépression si on n'y est pas dedans, à ce niveau-là. Et c'est assez classique parce que, encore une fois, vous avez une suractivité au moment de la liquidation, avec les clients qui râlent, avec les fournisseurs qui gueulent, avec les salariés qui sont pas contents. Et puis d'un seul coup, vous avez rendu les clés et le téléphone sonne plus, et c'est le grand vide. Donc et vous savez pas, à la limite, vous savez pas quoi faire de votre journée. Donc c'est extrêmement perturbant.
Voilà. Alors c'est le grand vide et en même temps, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, les ennuis ne sont pas terminés. D'autres ennuis vont.
Alors les ennuis sont pas terminés puisque effectivement il y a. Alors d'abord faut suivre la liquidation parce que le jour de la liquidation, ce n'est pas la clôture de la liquidation. C'est-à-dire qu'en fait il y a une phase où le tribunal dit la société s'arrête et il y a une phase à partir de là où on va faire les comptes de tout ce qui s'est passé dans cette société pour après porter un jugement si finalement le dirigeant est fautif ou pas, s'il y a des sanctions ou pas. Bon, il n'y a pas tant de sanctions que ça et c'est vraiment quand même des cas particuliers, mais il faut suivre le dossier et la clôture peut se faire un an et demi, deux ans et demi après selon les dossiers. Donc on a ce dossier qui traîne, qu'on a envie d'oublier, donc on a envie de tourner la page, mais mine de rien faut le suivre. Et puis, indépendamment de ça, bien évidemment, il y a le risque des cautions bancaires qui, là, en règle générale, arrivent assez vite, les recommandés et arrivent assez vite, et les huissiers arrivent assez vite. Et donc, c'est une pression supplémentaire, sachant qu'à cet instant, la plupart du temps, le chef d'entreprise en liquidation a zéro revenu.
Il
a beaucoup d'emmerdements à gérer, éventuellement des honoraires d'avocats à payer, mais il y a zéro revenu. Voilà.
D'où l'importance d'avoir affaire à des experts qu'on trouve chez 60 000 rebonds.
Oui, tout à fait. On essaye d'aiguiller, on essaye de relativiser les choses parce qu'il y a des choses qui sont urgentes, puis il y a des choses qui vont se gérer dans la durée. Voilà, donc c'est pas parce qu'on se prend l'huissier avec la banque que ça va pas se régler en 24 heures, hein, surtout si on n'a pas l'argent. Voilà, donc c'est apprendre à dire il y a des choses à gérer du passé, mais il faut aussi garder beaucoup de temps pour gérer le présent et le futur, parce que c'est avec le présent et le futur qu'on va payer qu'on va régler le passé.
On va voilà.
Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Oui. Faut être clair, hein, parce que les gens nous arrivent dans des situations des fois très compliquées où la situation familiale autour du chef d'entreprise est pas nécessairement simple. Parce que là encore, je pense qu'on n'a pas souvent la capacité on pense s'en sortir, donc on n'a pas la capacité à dire autour de soi jusqu'où ça va pas, et donc quand ça va pas du tout, ça peut être très compliqué à gérer.
Très compliqué. Voilà. Encore un mot, Frédéric Enfray, puisque je crois que je sais que le fer de lance de 60 000 rebonds, c'est de faire évoluer le regard porté sur l'échec.
Oui, tout à fait, parce que, alors, je pense qu'avec les périodes de crise qu'on vit, on va dire le côté positif, c'est que...
C'est un petit peu ce que vous disiez au début, je vous coupe, mais l'échec n'est pas synonyme d'incompétence.
Non, pas du tout. Alors, on fait tous des erreurs en tant que chef d'entreprise, hein, mais comme n'importe quel cadre dans une société haute, hein, toutes les décisions qu'on prend, elles sont pas bonnes. Alors quand c'est réussi magnifiquement, on dit la personne a été géniale.
Oui,
je pense que la différence entre la réussite totale et l'échec total, c'est souvent affaire de circonstances. Il faut pas grand chose pour passer d'un génie à un has-been total. Hein, faut être clair. C'est la vie de tous les jours, quoi. Voilà. On prend quand même beaucoup de paris. La période est pleine d'incertitudes, donc il faut prendre des paris, avoir une vision. Alors, est-ce qu'on a la bonne vision ? Ça, on le sait qu'après. Et c'est toujours facile de refaire l'histoire après coup. Mais sur l'instant, on a oublié ce qu'avait été le Covid avec les premiers confinements et les différents confinements, parce que c'est il y a 2 ans et ça paraît loin. Mais on oublie qu'on a connu des périodes où on a pris des décisions dans le brouillard absolu, et en sachant pas du tout ce qu'allait se passer dans un mois et demi. Le premier confinement, quand on a fermé les sociétés et que les salariés nous disaient « mais ça va rouvrir ?»
Oui.
Bon, c'était quand même assez compliqué, parce que en fait, on savait pas où on allait, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans les activités, à tout point de vue. Aujourd'hui, les entreprises doivent se moderniser avec toute la transition énergétique, écologique et autres. Donc, tout change. Il faut encore plus d'investissement. Il y a
beaucoup d'énergie.
Il y a les délais fournisseurs qui sont plus compliqués qu'avant en fonction des approvisionnements et tout. On a les matières premières qui ont augmenté. En fait, on a un environnement qui est d'une instabilité totale. Et à chaque fois qu'on croit avoir maîtrisé quelques nouveaux paramètres, d'autres nouveaux paramètres arrivent. Là, on a des périodes qui risquent d'être un peu agitées qu'arrivent. Quelles seront les conséquences ? On le verra le moment venu. Mais voilà, on a aucune stabilité et on doit malgré ça faire des prévisions à 2 ans, 3 ans pour savoir où on emmène le bateau. Mais il risque d'y avoir beaucoup de changements de cap entre les deux, quoi. Voilà.
Ah, c'est sûr. Vous décrivez vraiment la vie d'un chef d'entreprise.
Et en même temps, on aime ça. Hein,
qui est faite d'incertitudes et d'obstacles. Hein. Oui, mais voilà, il faut arriver à les surmonter. Merci Frédéric pour cette mise au point et puis votre engagement complètement bénévole, hein, je le rappelle, au sein de 60 000 rebonds. On fait une nouvelle pause avant d'enchaîner avec Jean-François Benon.
Bah, à tout de suite. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de soi, puisque ton cœur parler, alors écoute-moi.
C'est l'économie en direct. Et si vous nous rejoignez, notre émission aujourd'hui est spécialement consacrée à 60 000 rebonds. Avec à mes côtés, Frédéric Enfray, PDG du groupe AGP, Jean-François Benon, directeur général du CEVO, et Paul Nathan, coprésident du réseau Entreprendre. Merci Jean-François d'être à nos côtés.
C'est un plaisir, merci de votre accueil.
Alors, en tant que directeur général du CEVO, l'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val-d'Oise, nous savons que vous êtes à l'origine de l'antenne de 60 000 rebonds Val-d'Oise.
Alors, alors l'origine, c'est un mot sympathique, mais c'est pas tout à fait ça.
Rétablissez la vérité.
Je vais toujours raconter l'histoire parce qu'elle est belle d'ailleurs et intéressante. Non, nous sommes en tant qu'effectivement agence de développement toujours à l'écoute du territoire, des territoires du Val-d'Oise. Ils sont d'ailleurs très différents entre le Vexin rural et Cergy-Pontoise, Roissy-Charles-de-Gaulle ou Argenteuil. Cette diversité qui fait d'ailleurs l'intérêt de notre département. Et donc en étant à l'écoute des territoires et notamment des chefs d'entreprise et des milieux économiques, c'est notre rôle de favoriser le développement économique du Val-d'Oise autant qu'on le peut. C'est pas nous qui le faisons, ce sont des dirigeants, mais on les accompagne, on est là pour écouter, favoriser, prospecter et finalement faire ce qu'on appelle du marketing territorial, vendre le Val-d'Oise, le produit Val-d'Oise en France et à l'international. Nous avons été en contact, comme c'est le cas quotidiennement, avec un dirigeant qui est un jour a pris rendez-vous avec nous, qui est venu nous voir, que l'on a reçu avec plaisir, qui s'appelle Philippe Rambaud.
Oui.
Philippe Rambaud, c'est un monsieur qui a été dirigeant d'une très belle entreprise, qui a connu effectivement un dépôt de bilan dans la région de Bordeaux, si j'ai bonne mémoire, et il avait donc décidé lui-même de rebondir, parce que le terme important c'est ça, hein, c'est rebondir. Il voulait pas se laisser accabler par cet échec, et il a dit j'ai fait un échec, il y a un échec dans ma vie professionnelle, mais je vais rebondir et tout de suite je vais repartir à l'attaque pour ne pas rester sur cette impression et cette ambiance défavorable. Et il a créé une association qui s'appelle donc 60 000 rebonds. 60 000 pourquoi ? Parce que c'est le nombre annuel des dépôts de bilan en France, en moyenne, dans l'année. Et il a estimé que sur ces 60 000 dépôts de bilan, il fallait 60 000 rebonds, voilà, comme lui. Et il a pris l'initiative de créer cette association. Donc ce monsieur est venu nous voir et il nous a dit, j'ai créé cette association, elle est encore jeune, on commence à essayer de la faire essaimer en France. Il était très très proche, là, à l'époque, des autorités locales dans la région de Bordeaux. Et il nous a dit, j'aimerais bien m'implanter en Île-de-France. Et on m'a parlé du Val-d'Oise, je viens vous voir. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Alors, on a été évidemment totalement réceptifs, parce que ce sujet du rebond des entreprises en dépôt de bilan, c'est un sujet majeur.
Oui, oui.
C'est très sympathique le métier que l'on fait, nous, d'attirer des entreprises qui investissent, qui viennent s'installer, qui font des... Mais enfin, il faut aussi penser qu'on a, malheureusement, dans la vie des affaires, des périodes de retournement, et nous devons, et on essaye de le faire, être à l'écoute aussi.
Oui, quand tout va bien.
Tout à fait, exactement. Et donc, on était sensible à ce sujet, et donc, on a écouté Philippe Rambaud avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, et on lui a dit, écoutez, à notre place et à notre niveau, on va essayer de vous accompagner pour vous permettre de créer la première antenne de 60 000 rebonds en Île-de-France, et on voudrait qu'elle soit dans le Val-d'Oise. Alors il m'a dit, écoutez, c'est très sympathique, j'ai deux choses à vous demander. Il faut que vous me trouviez un président, que vous m'aidiez à identifier un président, et il faut que vous m'aidiez à identifier des coachs, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui ont la compétence et la sensibilité pour accompagner dans la durée psychologiquement et avec de l'énergie, les patrons qui sont concernés pour qu'on les aide à reprendre du poil de la bête et à se relancer. Alors on a cherché dans nos réseaux, on a réfléchi, il y avait un profil type, c'était bien d'avoir un dirigeant qui était sensible à ces questions-là ou qui avait connu pourquoi pas le dépôt de bilan et qui avait rebondi.
Bien sûr.
On a ouvert nos carnets d'adresses et on a pensé à quelqu'un qui était une personnalité du Val-d'Oise pendant de nombreuses années ici, aujourd'hui continue une très belle carrière du côté de Dieppe et ça se passe très bien pour lui, mais il avait été le patron de la Fédération du bâtiment du Val-d'Oise, il avait une très très belle entreprise dans le Val-d'Oise, il s'agit de Francis Mulot, hein, qui a été un dirigeant emblématique de ce territoire. Il est monté, il avait une entreprise qui a connu un très fort succès. Il est monté au-delà d'une centaine de salariés, un très beau groupe. Et puis un jour, il y a eu un retournement et son entreprise a été placée en liquidation. Et il s'est retrouvé brutalement dans cette situation qu'évoquait Frédéric.
Oui, c'est vraiment vous donnez l'exemple.
Donc il a connu ça et moi on l'avait accompagné à l'époque comme autant qu'on pouvait. Il a été d'un courage absolu. Il a abandonné ses bâtiments, son entreprise. Il a rendu les clés à Saint-Ouen-le-Mône et il a dû voir partir tous ses collaborateurs. Enfin, une horreur, une période qu'on souhaite personne. Et il a eu un courage terrible parce qu'il a rebondi. Il a rebondi tout seul, psychologiquement il était fort, et il a décidé de créer une petite entreprise de conseil et il est reparti à la charge et il a continué, il a remonté une deuxième affaire dans un domaine totalement différent qui était plus de l'accompagnement des PME, PMI, voilà. Donc cette personnalité, on l'avait en tête.
Ce Francis Mulot, vous l'avez contacté, c'était sa deuxième entreprise.
Oui, il était passé dans la deuxième entreprise, absolument, et elle marchait pas mal. Elle était beaucoup plus petite que la première. C'était un cabinet de conseil et d'accompagnement, mais il marchait très bien, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force mentale.
Il avait les clés aussi pour savoir ce qu'il fallait faire.
Il savait ce qu'il fallait faire. Ouais. Enfin, quand on fait, c'est ce que disait tout à l'heure Frédéric Anfray en introduction. C'est vrai qu'on a une mentalité en France un petit peu étonnante. Nous, on est des Latins et il y a le côté un peu puni, la punition, la honte, enfin des choses que les Américains n'ont pas du tout.
Absolument.
Aux États-Unis, parmi les critères d'un dirigeant d'entreprise qui a réussi, c'est combien de fois tu as déposer le bilan. Pas parce que on a déposé le bilan, c'est parce qu'on a rebondi, précisément.
C'est
pas la
CV.
Capacité à déposer le bilan qui est mise en valeur, faut pas exagérer. Mais c'est la capacité de dire, tu as déposé le bilan, tu as appris de tes erreurs, ou de ce que tu as fait et qui n'allait pas, comme le disait Frédéric, et tu as réussi à rebondir. Voilà.
Absolument.
Et nous, en France, on a tout de suite ce côté un petit peu honteux, on se cache, on a honte, la famille a honte, enfin, tout le monde vous lâche, les amis vous tournent le dos, enfin, terrifiant.
C'est
terrifiant.
Vrai.
Et donc, on avait été impressionné par ce qu'avait fait Francis Mulot. Voilà. Donc, nous, notre rôle, il a été simple. Vous dites, on a porté la création juridique. C'est nous qui l'avons soutenu. On a trouvé le président. De la même façon, on a cherché un coach, entre guillemets. On avait dans l'entourage du CEVO plusieurs personnalités qui étaient un peu dans ce milieu des coachs d'entreprise. Il y en a un qui s'appelle Olivier Carré, à l'époque, qui a accepté qu'on connaissait bien, qui avait la mentalité qui nous plaisait pour faire ça, et on l'a aussi mis dans la boucle tout de suite, et il a accepté de tenter l'aventure. On partait de rien.
C'est la feuille blanche.
Et donc, avec ces deux personnalités que le CEVO a identifiées et a aidé à convaincre, c'est pour autant qu'il faille les convaincre, l'association a été créée juridiquement, son siège social a été installé dans les locaux du CEVO, et on est parti comme ça, bille en tête, avec ces deux personnalités qui rapidement ont permis d'agréger d'autres chefs d'entreprise, et voilà comment l'aventure a commencé. Donc effectivement, le CEVO était un des acteurs clés pour le lancement de l'aventure dans le Val d'Oise. On a été très très heureux de rencontrer Philippe Rambaud. C'est une belle personnalité. Quelqu'un de très très bien, qui continue, je crois d'ailleurs, à rester dans la mouvance, évidemment, de l'association au niveau national.
On en dira un mot tout à l'heure.
Bien entendu. Et aujourd'hui, alors après, le temps a passé, puisqu'il y a déjà quelques années que l'association a été créée. Il y a eu des petites transformations. Elle est devenue francilienne. Il y a aujourd'hui une antenne spécifique valdoise. Frédéric le dira mieux que moi. On a eu d'autres personnalités. Alors, Francis Mulot a tenu la barre pendant quelques années. Il a ensuite passé la main à Laurent Pillard, qui est une belle personnalité du Val d'Oise aussi, qui est un homme engagé dans le milieu local, qui est aujourd'hui président de la CPME.
Et puis, qu'on connaît bien aussi.
Voilà, vous connaissez bien. Mais c'est toutes de très belles personnalités. Et puis Frédéric, qui vient d'arriver, je ne vais pas dire que ce n'est pas une belle personnalité, parce qu'on se connaît bien et je sais tout ce qu'il fait. Et je ne sais pas comment il trouve le temps de faire tout ça, d'ailleurs, mais il le fait. Et on remarque d'ailleurs que ceux qui font beaucoup de belles choses sont capables de faire beaucoup. Ils font beaucoup en général. Voilà. Et donc la succession est assurée et l'association se développe. Nous, dans l'équipe du CEVO, on avait mandaté un de nos collaborateurs qui s'appelle Florent Bosseur, qui est un de, oui. de nos jeunes collaborateurs, qui s'est beaucoup impliqué, qui a pris ça très à cœur lui-même et qui continue à être très proactif et actif dans l'association que l'on continue à suivre et accompagner, voilà, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie. On est très très heureux de constater, de suivre tout ce qui se passe aujourd'hui. Et encore une fois, le sujet reste d'une vive actualité, les difficultés. C'est vrai qu'on a eu la période du Covid, une période un peu compliquée parce qu'il y a eu, enfin compliquée, étonnante, parce que paradoxalement il y a eu très peu de dépôts de bilan.
Oui, mais parce
pendant deux ans, ils étaient aidés, il y avait etc. Beaucoup d'aide, ce qui fait que beaucoup d'entreprises, même qui étaient en difficulté, ont été mises un petit peu sous couveuse, été protégées. Absolument. Et donc on a connu deux ans avec une baisse drastique du nombre de dépôts de bilan. Bon, cette période du Covid, elle est maintenant, faut le souhaiter, derrière nous, et on voit malheureusement depuis le mois de septembre, vous connaissez le président du tribunal de commerce, on avait rendez-vous avec lui il y a quelques semaines là, pour faire un peu le point sur les chiffres. La rentrée depuis le mois de septembre, on voit les chiffres qui repartent à la hausse.
Oui, j'ai eu l'occasion d'en discuter.
Et puis il y a une certaine inquiétude, et c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui autour de l'énergie est quand même assez tétanisant.
Complètement.
Il y a des premières mesures qui sont mises en place, mais est-ce qu'elles seront suffisantes? J'en sais rien. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de réseaux professionnels sont en train de se mobiliser à tous les niveaux. L'État met en place des aides, mais est-ce que c'est la solution? J'en sais rien. En tous les cas, il y a des inquiétudes. Et il n'est pas du tout improbable, et on commence à le voir dans les chiffres, que le nombre des dépôts de bilan reparte à la hausse.
Oui.
Et donc on va avoir à faire face, dans le Val d'Oise comme ailleurs, à un nombre de situations douloureuses. Parce que ce sont des situations douloureuses, et Frédéric l'évoquait tout à l'heure, qu'il va falloir peut-être accompagner. À une condition, évidemment, et c'est tout le point un peu d'achoppement de cette énergie qui est déployée par l'association avec ses dirigeants et ses coachs, c'est d'avoir des dirigeants qui viennent rencontrer l'association. Il y a un côté pudique, il y a un côté honteux, il y a un côté douloureux. C'est pas toujours facile, et on le comprend bien humainement, quand on est en difficulté, d'aller demander de l'aide. On n'est pas forcément dans un état des lieux.
On n'est pas construit comme ça en France.
Et pourtant, il faut le faire, parce que Frédéric l'a rappelé tout à l'heure, il sait de quoi il parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dirigeant, on est pris par le quotidien, on a un rythme très très fort, et d'un seul coup la vie s'arrête quand on est en dépôt de bilan, et en général, et d'ailleurs les statistiques le prouvent, vous avez un enchaînement. Tout à l'heure on parlait des emmerdements qui volaient en escadrille, c'est vrai, mais c'est pareil dans ce cas-là.
J'ai dit en rafale, mais c'est en escadrille.
C'est en escadrille. Et donc,
le rafale est un beau produit.
C'est vrai.
Oui.
Et donc c'est la même chose, c'est-à-dire que quand le dépôt de bilan arrive, en général, la situation familiale peut se dégrader très vite. Les problèmes de santé arrivent. On a l'habitude, d'ailleurs, chez 60 000 rebonds et dans les associations qui accompagnent comme ça les personnes en difficulté, les dirigeants en difficulté, de dire que c'est la loi des 3D. C'est la dépression, le divorce et le décès.
Le décès,
donc,
parfois.
Donc c'est terrifiant. On peut pas imaginer, dans un territoire comme le nôtre, dans le Val d'Oise, laisser des dirigeants tomber dans ce piège-là et dans cette catastrophe humaine. Donc vraiment, en tous les cas, au CEVO, on est très très heureux, très fiers, et puis on suit encore une fois cette association et on pense que c'est nécessaire de multiplier ces initiatives. D'ailleurs, le tribunal de commerce de Pontoise a de son côté créé une association qui est dans le même esprit un peu, pour essayer d'anticiper, pas tout à fait exactement comme 60 000 rebonds, mais l'idée est un peu la même, c'est-à-dire de faire de la prévention et d'essayer de prendre en charge les personnes qui sont concernées le plus en amont possible, pour éviter justement qu'ils tombent dans la trappe, parce que c'est une véritable trappe. Et une fois qu'on est tombé au fond, psychologiquement et humainement, c'est très difficile d'en sortir. Voilà.
Bah écoutez, moi je voulais vous féliciter d'avoir eu cette intuition de suivre Philippe Rambaud, et puis dire justement que à tous ces chefs d'entreprise qui nous entendent et qui ont peut-être des difficultés, que avant Philippe Rambaud, rien n'existait. C'est parce que il était un peu dans ce désert d'association qu'il a eu l'idée aussi de vouloir créer cette communauté. Et bravo.
Pour être totalement honnête, on avait, il y a une vingtaine d'années, c'est vieux, alors j'ai oublié le nom du dirigeant, mais on avait le patron d'une entreprise du Val d'Oise qui avait créé une association qui s'appelait Rebondir. Et qui avait déjà senti ça à l'époque.
Oui.
Il avait créé ça. Aujourd'hui, cette association, je crois, existe toujours. Je crois qu'elle existe toujours. Et le dirigeant, lui, a rebondi, d'ailleurs. Mmh. Il était dans un secteur, il est parti dans le secteur de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, il n'est plus dans le Val d'Oise, mais il reste très actif au niveau national dans cette aventure. Son nom va me revenir tout à l'heure. Mais le Val d'Oise est finalement une terre propice, puisque, je vous dis, on avait eu, on parle de ça il y a plus de 20 ans, un homme qui avait déjà, à l'époque, et le CEVO avait essayé de l'accompagner aussi modestement, qui nous avait alerté, et à l'époque, lui, était vraiment dans le désert. Rimbaud est arrivé à une époque où il n'y avait pas grand-chose en France, mais le sujet avait déjà été un peu défriché, pour être honnête, il y a 20 ou 30 ans.
Avait, donc, il, lui-même, peut-être, s'en était inspiré.
On avait eu une association, encore une fois, qui avait été créée et qui continue, je crois, à exister, mais peut-être pas dans la même vision que 60 000 rebonds. Mais on avait été sensibilisés à ce sujet il y a plus de 20 ans, dans le Val d'Oise.
Et pour continuer sur Philippe Rimbaud, après je vous donne la parole, Frédéric. Je crois qu'aujourd'hui, il porte ce message auprès d'étudiants et d'acteurs économiques. Hein. Il fait des conférences pour
Rimbaud.
Oui, je crois qu'il continue sur ces sujets-là. Il est un peu moins présent dans l'association, mais il reste le fondateur avec l'idée d'origine.
Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure.
Oui, je voulais dire que le CEVO est vraiment beaucoup impliqué dans la mesure où Florent Bosseur est vraiment impliqué et délégué par le CEVO et c'est un des piliers de l'association dans le Val d'Oise. Le CEVO nous reçoit aussi longtemps. Le siège de l'association a été au CEVO. Donc mine de rien, tout ça, c'est quand même bien pratique parce qu'on a toujours besoin de salles de réunion et de choses comme ça. Et l'association Île-de-France a quelques permanents. Ils sont pas très nombreux, ils sont trois sur la région parisienne, sur la Défense. Mais le Val d'Oise n'a pas de permanent, n'a pas de locaux. Donc on trouve toujours des sites un peu différents parce qu'on essaye de faire tourner aussi dans le Val d'Oise pour que ce soit pas trop centré que sur Cergy-Pontoise, hein, parce que les problèmes sont partout. Et puis j'avais invité Michel Jonquière qui a pas pu venir parce que je crois que le MEDEF du 95 et Michel Jonquière se sont pas mal aussi investis à la création. Et comme j'y étais pas, je préfère que ce soit
Qu'on parle. Oui, tout à fait. Effectivement, j'aurais dû le dire. Une fois que le CEVO a rencontré M. Rimbaud, comme on le fait assez souvent, on lui a conseillé d'aller rencontrer le MEVO, MEDEF, et notamment Michel Jonquière, qui est un homme engagé par nature dans notre département, lui aussi depuis longtemps. Et évidemment, le contact est passé très très bien. Et le MEDEF 95, le MEDEF Val d'Oise et le MEVO 95 ont été immédiatement disponibles, à la fois pour faire ce que on avait fait de notre côté, c'est-à-dire pour identifier des dirigeants qui pouvaient rentrer dans l'association, et puis pour s'engager à la soutenir, à la faire connaître. Et c'est vrai qu'il y a eu une très très belle mobilisation. Ensuite, la Chambre de commerce également, enfin tous les réseaux du Val d'Oise, où tous ces réseaux, vous le savez, fonctionnent très bien les uns avec les autres.
Je crois qu'il y en a plus de 70.
Oui, on en a identifié, nous, plus de 70, mais des associations qui réunissent des dirigeants, ou des clubs, ou des institutions qui réunissent des dirigeants d'entreprise, on a un fichier avec plus de 70 dans le Val d'Oise. Donc il y a un maillage territorial très dense, et tout ça a été mobilisé autour des grands institutionnels que sont la CCI, le MEVO, le MEDEF, la CPME, le CEVO, etc., la Fédération du bâtiment et d'autres, la Chambre des métiers, et tout ce petit monde s'est rapidement agrégé, et je crois qu'aujourd'hui l'association est vraiment... elle est mise en valeur par l'ensemble de ces acteurs. Mais c'est vrai qu'il faut rendre hommage à Michel Jonquière, qui a été un des premiers dirigeants qui a cru et qui a surtout apporté des idées pour fournir des premiers adhérents.
Absolument, et qui aurait dû être là ce matin et dont on regrette son absence.
Ce sera pour une prochaine fois.
Voilà, il avait un autre rendez-vous ce matin. Merci infiniment Jean-François Benon pour votre expertise dont on ne se lasse pas. Je crois que vous vouliez dire un mot puisque je vous laisse la parole pour un mot sur le CEVO et dire que vous organisez des apéritifs pour Ça intéresse Christophe.
Oui, oui, tout à fait. On trouve que
les pour faire venir d'autres chefs d'entreprise.
Bien sûr, mais on trouve que les apéritifs, c'est une bonne, un bon moment de convivialité. Mmh. Là, on est en France, il faut l'admettre. Et alors, l'apéritif, c'est pas forcément pour boire de l'alcool et se mettre en mauvais état. C'est simplement pour s'ouvrir la convivialité. Et puis surtout, le terme apéritif correspond à un moment de la journée. C'est pour ça qu'on a choisi ce terme il y a une trentaine d'années, c'est d'ailleurs. Mmh. Il y a une trentaine d'années que le CEVO organise tous les mois, entre 12h30 et 14h30, ce qu'on appelle les apéritifs contacts. Tout est dans le titre, en réalité. Apéritif parce que c'est le moment de convivialité, de partage autour d'un verre et d'un petit buffet léger entre 12h30 et 14h, l'heure où, de toute façon, il faut aller déjeuner. Donc, ça évite de perdre trop de temps quand on est dirigeant. On sait qu'entre 12h30 et 14h30, on va aller manger quelque chose.
Oui.
Autant aller le manger avec l'équipe du CEVO, avec d'autres dirigeants et partager des idées et des projets. Donc, on a un programme chaque année, tous les mois de conférences. Le 18 janvier, dans quelques jours, on a une conférence sur des nouveaux modes de management qui sera présentée par Yannick Vinet, hein, qui est lui aussi un homme de réseau et bien implanté dans le Val d'Oise, qui va nous transmettre un savoir-faire sur des nouvelles pratiques un peu innovantes dans le management des équipes. Et donc, tout le monde, ce sont des manifestations qui sont gratuites, qui sont ouvertes à tous ceux qui s'intéressent à la vie économique du territoire, et notamment aux dirigeants et aux cadres d'entreprise. Donc, il suffit de s'inscrire sur le site du CEVO et on sera heureux d'accueillir tous ceux qui veulent y participer. Et puis, on a un programme pour les 6 mois qui viennent qui est déjà arrêté. Donc, tout ça est en ligne sur
le
site internet du CEVO. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup pour cette nouvelle précision. Et puis, merci pour votre, je le rappelle, votre expertise. On fait une pause avant d'entamer la dernière partie de notre émission avec Paul Nathan.
IDFM 98 FM.
For my sins, and I've been walking this earth long enough that death's a gift. Been living this life so patient until I see you.
Avatar sur IDFM, la musique de Avatar sur IDFM Radio, un film que nous vous conseillons d'aller voir. 60 000 rebonds et ses partenaires présents à l'économie en direct sur IDFM Radio, où je suis toujours en compagnie de Frédéric Anfray, PDG du groupe AGP, responsable de 60 000 rebonds Val d'Oise, Jean-François Benon, directeur général du CEVO, l'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise, à l'origine, comme nous l'a raconté tout de suite Jean-François Benon, à l'origine de l'antenne de 60 000 rebonds Val d'Oise, et Paul Nathan, coprésident du réseau Entreprendre 95, un concept d'accompagnement entrepreneurial de pair à pair, partenaire de 60 000 rebonds. Focus sur vous, Paul Nathan.
Merci Jacqueline. Alors, juste un petit mot, c'est vrai que les apéritifs contact, c'est bien mieux que les apéros Zoom.
Ah,
donc rien ne remplace le contact.
Oui, oui, on n'est pas obligé de rester en pyjama, c'est ce que vous nous dites.
C'est beaucoup mieux.
Alors aujourd'hui, Réseau Entreprendre et 60 000 rebonds ont des liens étroits. Peut-être qu'avant de les évoquer, pourriez-vous nous présenter le Réseau Entreprendre, Paul ?
Oui, alors je vais...
Ses origines, ses objectifs.
Je vais vous faire presque un copier-coller de ce qu'a dit Frédéric Anfray.
Oui.
Parce que l'histoire commence pratiquement de la même manière. Elle commence dans le Nord avec André Mullier.
Oui.
Et André Mullier était le PDG de Fildar. Et donc, vous savez, dans les années 80, c'était compliqué pour les vendeurs de laine, les femmes tricotaient moins.
Oui.
Et donc, il a dû réduire ses effectifs et, dans ce cadre-là, donc faire un plan social. Et là, vous savez bien le côté humain qu'on retrouve dans le Nord, il s'est retrouvé face à un cas de conscience en disant comment je peux aider mon personnel à rebondir.
On oui.
revient bien dans cette
oui,
même
oui.
logique. Et là, il s'est dit, je vais les aider à créer leur propre emploi. Donc, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'essaimage. Mmh. Donc, quand on réduit les effectifs, on essaye aussi d'accompagner les salariés. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez commun. À l'époque, c'était totalement innovant.
C'était novateur, oui.
Et donc, il a commencé à faire jouer tout son réseau de chef d'entreprise en disant il faut que vous accompagniez mes salariés ou mes ex-futurs salariés qui ont des projets. Et c'est comme ça qu'est né le réseau Entreprendre. À partir de là, ça a marché. Ça a marché et donc il s'est dit il faut essayer de dupliquer le modèle. Donc à partir de là, il a créé toute une série d'associations qui sont couvertes par une fédération du réseau Entreprendre. En France, il y a 65 associations, 126 implantations. Maintenant, Réseau Entreprendre commence à aller à l'international. Il est implanté dans 10 pays. Donc voilà, donc on voit bien que ça répond à un véritable besoin. Et si maintenant on descend au niveau de Réseau Entreprendre 95, eh bien Réseau Entreprendre 95 a été créé maintenant en 2010. Et là, on retrouve aussi un mot qu'on a beaucoup entendu depuis le début dans la bouche de Frédéric Anfray et de Jean-François Benon, c'est le mot accompagner
oui.
ou accompagnement.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, Réseau Entreprendre, son ADN, c'est l'accompagnement. Donc, on est là pour accompagner les créateurs d'entreprises, mais pas que.
C'est ça. C'est un accompagnement qui aujourd'hui a évolué et c'est peut-être pour faire grandir les entreprises et puis les pérenniser.
Absolument. L'objectif, évidemment, c'est d'accompagner les créateurs parce que, en priorité, parce que le créateur, c'était pas un chef d'entreprise. Donc, du coup, il a un domaine d'expertise, il a une excellente idée. Par contre, il a pas toutes les compétences. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, dès le début, dès que le futur créateur nous contacte, eh bien, l'accompagnement débute. Il n'a pas encore créé son entreprise, l'accompagnement débute. Pourquoi ? Parce que, première étape, il monte un dossier. Et donc, il va faire les fameux business plans, où il va essayer de projeter ou mettre en chiffres son idée. Eh bien là, déjà, on l'accompagne. C'est-à-dire qu'on va le challenger sur ces chiffres, et on va lui dire non, là, ouais, ça tient pas la route, là, c'est, et comment tu vas gérer ta trésorerie, etc. Parce qu'on se rend bien compte que à chaque fois, le nerf de la guerre, c'est quand même la trésorerie, et on sait très bien que le démarrage met toujours plus de temps que ce qu'on prévoit.
Oui, il faut faire redescendre la personne sur terre en lui disant voilà, c'est pas, c'est comment financièrement, c'est pas jouable.
Oui, alors on n'est pas là pour, enfin, si un petit peu pour la faire redescendre sur terre quand elle est trop dans les nuages,
oui.
Mais surtout, on a des gens qui sont enthousiastes.
Oui.
Donc à partir de là, face à cet enthousiasme, il faut pas le casser, mais en même temps, il faut leur faire comprendre que sauf. En fait, le plus dur, c'est le faire connaître.
Oui.
Et donc, à partir du moment où on a mis en place l'idée, il faut la faire connaître pour trouver des clients. Et c'est là que tout le monde a aussi un rôle à jouer, le CEVO, etc. Où, effectivement, on est vraiment dans un écosystème où tout le monde a son rôle à jouer et il y a plein de portes à ouvrir. Et là, Réseau Entreprendre est là aussi pour ouvrir des portes. Donc, première étape, on analyse et on challenge les gens sur leur business plan. Deuxième étape, ils rencontrent 5 chefs d'entreprise qui valident le projet. Donc là aussi, re-challenger, mais sur des aspects plus marketing, sur plein de points de leur projet. Et après cette étape-là de validation, on leur fait passer le grand oral de l'ENA. Et leur projet est validé ou pas. Et à chaque fois, le jury, c'est des chefs d'entreprise, des représentants des banques, etc. Projet validé, en règle générale, le porteur de projet arrive, il a fait un apport personnel, mais qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche, et c'est ça que nous, on propose en priorité, c'est l'accompagnement, mais il cherche aussi de l'argent. Et là, on est susceptible de lui faire un prêt d'honneur à taux zéro,
d'accord,
avec un délai de grâce avant un remboursement, et on retrouve un peu la même chose, un accompagnement sur 24 mois et un remboursement sur 24 mois. Et donc, la personne va avoir ce prêt d'honneur. Ce prêt d'honneur va se rajouter à ses fonds propres, et donc ça va être considéré ce qu'on appelle comme des quasi-fonds propres, c'est-à-dire quand ils vont voir la banque pour faire un emprunt, ça sera considéré, notre prêt d'honneur sera considéré comme si c'était leur argent, des fonds propres, et donc ils auront ce qu'on appelle un effet de levier, une capacité d'emprunt qui sera nettement supérieure.
Voilà, une façon de rassurer la banque, puisque vous soutenez ce créateur.
Voilà, et les banques font partie souvent du jury de validation des projets. Donc ils sont vraiment au démarrage.
Ils sont au fait de l'activité.
Voilà, et de la genèse du projet. Donc ça, c'est toute la partie création. Après, dans les autres points, on a la reprise. Et là, on sait que depuis 20 ans, 25 ans, on n'arrête pas de parler après le baby-boom, eh bien, on parle du papy-crash. Donc, tous ces gens qui partent à la retraite de la génération du baby-boom qui doivent céder leur entreprise.
La nôtre, quoi.
C'est ça. Il a mis le doigt dessus.
Frédéric Onfray est profondément désagréable.
Non, mais je crois qu'il est très pragmatique, Frédéric.
Il est désagréable. Donc cette génération du papy crash doit céder son entreprise. Et là, eh bien, il faut aider éventuellement les repreneurs qui viendraient nous voir peuvent être aussi accompagnés, parce que ça peut être des cadres ou des gens qui, là aussi, n'ont pas toutes les compétences. Et la reprise d'entreprise, c'est encore autre chose. Et ça doit être beaucoup plus, structuré, accompagné, avec des enjeux financiers qui sont supérieurs. Autre point, autre accompagnement, et là, c'est ouvert j'allais dire à tous les chefs d'entreprise, c'est les programmes Booster et Ambition, qui là aussi, et toujours il y a aussi une interaction avec le CEVO qui peut accompagner, c'est le passage à la vitesse supérieure avec un fort développement. Et là aussi, on est susceptible de mettre en place des accompagnements des chefs d'entreprise qui se retrouvent de face à une croissance énorme parce que ils vont doubler leur chiffre d'affaires. De 500 000 euros, ils vont passer à 1 million. Voilà.
Ouais, il faut savoir gérer.
Et donc, on est là aussi pour les accompagner. Après, pour revenir à notre partenariat avec...
Il faudrait que vous nous disiez comment Réseau Entreprendre 95 se positionne avant et après 60 000 rebonds.
Alors, avant, j'allais dire, le avant peut être l'après.
Oui.
Puisque finalement, les gens qui vont voir 60 000 rebonds veulent rebondir. Eh bien, j'ai par le passé assisté à une réunion de 60 000 rebonds où j'ai vu les coachs accompagnateurs qui étaient là et j'étais impressionné par leurs compétences. C'est de se dire, à un moment, le projet a commencé un petit peu à frémir et il faut aller passer à la vitesse supérieure. Et c'est là qu'on arrive. Mmh. C'est-à-dire que toute la première phase, je dégrossis le projet et fait au sein de 60 000 rebonds. Et là, on va commencer à passer dans l'exécution. Et c'est là où on est vraiment complémentaire. Et donc, vous voyez bien que à chaque fois, on a une espèce d'écosystème qui existe où on est. Il y a toute une série de structures dans le Val d'Oise qui viennent les unes en complément des autres.
Alors, c'est Frédéric, je suis contente que vous disiez ça, Paul, parce que quand j'écoute la description de Réseau Entreprendre, on pense forcément à d'autres associations qui existent. Vous dites vraiment que vous êtes complémentaires, vous n'êtes pas en concurrence, jamais?
Non, parce que, prenons Initiative pas la nommer.
Oui.
Eh bien, il y a toute une série de projets qui ne sont pas, j'allais dire, dans notre objet associatif, puisque nous, on est là pour accompagner les créateurs d'entreprises qui ont pour objet de créer, à l'horizon 3 ans, entre 3 et 5 emplois.
D'accord.
Donc, il y a toute une série de projets où l'objectif n'est pas de faire ça. Et donc, il y a aussi des associations telles qu'Initiative qui peuvent répondre et accompagner.
Il y a des profils qui...
Voilà. Et donc... L'idée, c'est de dire, et encore une fois, moi j'insiste, on n'est pas là pour être en concurrence les uns et les autres, et Frédéric le voit bien, parce que en termes de partenariat, il sait bien qu'en fonction du profil des associations, eh bien, telle association va répondre plus à tel projet de la personne qui veut rebondir.
Oui, Frédéric.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de concurrence comme aujourd'hui dans le Val d'Oise sur les différents réseaux professionnels, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient syndicats professionnels. Chacun a un peu un angle d'attaque des adhérents ou des gens qui viennent le voir et tout le monde est complémentaire. Donc, bien évidemment qu'il peut y avoir à la marge peut-être quelques dossiers qui sont éligibles soit chez l'un, soit chez l'autre, mais globalement, il n'y a pas de souci. Ce qui nous intéressait dans le partenariat avec Réseau Entreprendre, c'était à double titre. Effectivement, les gens qui rebondissent et qui vont avoir des difficultés à recréer le soutien du Réseau Entreprendre, si le projet est labellisé, notamment vis-à-vis des banques, c'est quand même un énorme plus. Hein, parce qu'il faut savoir que quand on a été en liquidation judiciaire, la vision des banques, s'il y a bien un endroit où le regard n'a pas changé, c'est bien celui des banques. Et donc, c'est vraiment très utile. Et à l'inverse, qui dit création d'entreprise dit taux de réussite qui ne peut pas être à 100%. C'est logique. Même en étant encadré, il peut y avoir quelques échecs. Alors, il y a moins d'échecs quand c'est encadré, ce qui est logique. Mais il peut y avoir aussi quelques personnes qui ont besoin de rebondir derrière et qui peuvent venir chez nous. Donc, je dirais que du côté de Réseau Entreprendre, on espère nous envoyer le moins possible de gens. Et à l'inverse, nous, on peut avoir un certain nombre de personnes qui sont voilà. éligibles. Voilà. Donc c'est un vrai partenariat. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que venir dans nos réseaux, 60 000 rebonds ou réseau entreprendre pour des sujets différents, c'est aussi accéder à tous nos carnets d'adresses de nous tous. Mmh. Et le Val d'Oise est quand même riche aussi là-dessus, parce que indépendamment des réseaux, les responsables des différents réseaux ou les bénévoles des différents réseaux se côtoient complètement. Donc c'est extrêmement facile de renvoyer tu veux faire ça, t'as tel métier, t'as pas l'entrée à tel endroit. On arrive assez facilement à mettre les contacts. Après, ça marche pas, c'est autre chose. Mmh. Mais on a aussi ce côté réseau qui est utile quand on vient dans des réseaux entreprendre, dans des réseaux 60 000 rebonds, dans des réseaux CEVO. Alors nous, on fait pas les apéritifs contacts parce qu'on n'a pas de budget, mais c'est un peu le même principe. Ouais. C'est plus on rencontre de gens, plus on a une chance
vous pouvez envoyer vos chefs d'entreprise dans ces apéritifs.
Tout à fait. Il va falloir qu'on le fasse.
Ouais.
Et c'est pour ça, juste, je reviens et j'insiste sur l'aspect écosystème.
Oui.
Parce que on travaille en partenariat avec différentes agglos et les agglos tels que Plaine-Vallée, oui. Argenteuil, Roissy, Cergy, Valparaisis contribuent largement à notre écosystème avec les incubateurs. Mmh. Donc à nouveau, les créateurs vont se retrouver sur ces sites où ils sont avec d'autres créateurs, où il y a toujours cette notion de partage de réseau, d'accompagnement. Donc les lauréats se soutiennent mutuellement. Donc il y a des échanges entre les individus. Effectivement, il y a l'accompagnement du chef d'entreprise, mais tout ça crée les meilleures conditions de réussite pour un projet. Et nous, on le voit, puisque on est en train de parler aussi de dépôt de bilan, etc. On voit que un créateur qui est accompagné a plus de chances de évidemment, il y a des dépôts de bilan aussi sur des créations, mais il a beaucoup plus de chances de survivre et de vivre bien au bout de 3 à 5 ans ou 7 ans que quelqu'un qui démarre tout seul. Et les premières années sont essentielles dans la vie d'une entreprise. Et là, on se rend bien compte que, on essaye d'éviter que nos lauréats aillent à 60 000 rebonds au moment de leur création, mais si c'est le cas et qu'ils veulent rebondir, eh bien, on est là aussi pour les accompagner, pour éviter que ça se reproduise.
Et ça, c'est porte ouverte dont parlait Jean-François Benon.
Il y a un gros parallèle dans les organisations du réseau Entreprendre et de 60 000 rebonds. Alors, c'est pas non plus totalement hasard aujourd'hui, parce que les fonctionnements avec coaching et parrains sont quand même assez proches.
Oui. C'est pour ça que je parlais de copier-coller.
Voilà, le réseau Entreprendre a été créé par la famille Muliez, et c'est Guillaume Muliez qui dirige actuellement le réseau 60 000 rebonds, donc il y a quand même des cultures extrêmement communes.
Et qui nous avait fait la révélation
d'un secret de famille, et qu'il avait un arrière-grand-père qui avait fait 3 liquidations judiciaires, si je ne me trompe pas. Et c'était assez étonnant. Le dernier point, c'est que le partage d'expérience des gens qui ont ou créé ou déposé le bilan, dans les deux cas, les gens peuvent se permettre de dire des choses à de nouveaux, j'allais dire, impétrants, qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup moins légitimes de la part d'un coach ou d'un parrain. Quand vous avez quelqu'un qui dit non, mais là, ton idée, elle est pas bonne, etc., souvent c'est un peu plus cash, et alors que nous, on est quand même plus nuancé. Et ça, c'est une richesse importante. Souvent, dans le cas du rebond de la création, les gens sont focalisés sur une idée vraiment phare. Et souvent, la problématique, c'est de leur dire essaye d'aller vers l'idée qui est la plus rentable dans un premier temps, pour après aller vers celle-là, mais là, tu pars vers le plus compliqué, et dans la durée, ça va pas être simple. Et c'est pas simple, parce que les gens qui créent ou qui recréent ont besoin de passion. Il faut à la fois les orienter un peu et pas leur tuer leur passion, même si elle est un peu hypothétique.
Il faut pas tuer l'enthousiasme, mais en même temps qu'ils aient les pieds sur terre.
L'objectif, effectivement, c'est de les aider. C'est pas de décider à leur place.
Oui,
ils sont chefs d'entreprise, absolument. Ils sont en phase de montée en puissance sur l'apprentissage de leur métier. Donc on est vraiment là. Moi, souvent, j'utilise l'expression jouer au ping-pong. C'est-à-dire qu'on renvoie la balle. Et c'est eux qui prennent les décisions. Ça les aide dans leur réflexion. Ça leur permet d'aller plus loin, plus vite. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le jour où on n'est plus là à leur côté, eh bien, ils volent de leur
pouvoir,
voler de leurs propres ailes.
Ouais, absolument. À vous écouter tous les trois, moi, je retiens trois mots solidarité, bienveillance et puis efficacité.
Et un quatrième, accompagnement.
Accompagnement, oui, mais forcément, forcément. Eh bien, écoutez, l'émission dans la fin de l'émission approche. Alors, comme pour la tradition de l'économie en direct, je redonne la parole à chacun pour quelques mots de conclusion. Je vous donnerai la parole en dernier, Frédéric. Donc peut-être Jean-François Benoît.
Oui, avec plaisir. Merci. Je crois que cette émission effectivement permet là de toucher du doigt très concrètement l'importance sur un territoire et là je parle au titre du Val d'Oise évidemment de réseaux de femmes et d'hommes qui s'engagent pour partager des expériences, des bonnes pratiques, de la solidarité, de la bienveillance. Et de ce point de vue-là, on l'a dit tout à l'heure rapidement, le Val d'Oise est riche. Il est riche parce que c'est effectivement plus d'une soixantaine de réseaux qui maillent le monde des dirigeants d'entreprise et du milieu économique du département. Et nous, au CEVO, encore une fois, qui sommes là pour valoriser l'attractivité de notre territoire, on s'appuie tous les jours, quotidiennement, plusieurs fois par jour, sur la richesse de ces réseaux, parce que c'est là que ça se passe en réalité. Et là, aujourd'hui, vous avez effectivement invité les représentants, les responsables de deux réseaux majeurs qui interviennent à des phases différentes de la vie des entreprises, bien entendu, puisque quand on est avec Réseau Entreprendre, qui a été, dont la création dans le Val d'Oise a été soutenue par le CEVO. On a été sans doute, c'est pas pour nous lancer des fleurs, hein, mais pour dire simplement qu'on était très sensible à cette aventure de Réseau Entreprendre. Et quand il y a eu les études préalables à la création de l'association, je crois que la première structure qui a été rencontrée à l'époque, c'était le CEVO, vous voyez. Donc, ça, et on avait été totalement séduits par l'idée que Réseau Entreprendre pouvait aussi s'installer dans le Val d'Oise.
C'est votre dynamisme qui l'emporte.
C'est pas ça, non, c'est simplement qu'on est à l'affût de ces belles initiatives et on est toujours admiratif que des hommes et des femmes prennent le... Parce que c'est pas facile, ça prend du temps de créer des structures.
Absolument.
Il faut les animer, c'est un vrai engagement. Et tout ça est bénévole, vous l'avez répété. Donc nous, on est très respectueux et très attentifs à soutenir avec nos petits moyens toutes les initiatives comme ça. Et quand Réseau Entreprendre a eu l'idée de s'implanter en Val d'Oise, c'est vrai qu'on était à leur côté dès l'étude de marché préalable pour essayer de mobiliser les premiers adhérents. Parce que c'était ça, il fallait trouver une vingtaine de premiers adhérents. Et le CEVO a été un des tout premiers à s'associer à cette aventure. Et donc ce que j'étais en train de dire, c'est que là, on est à des phases différentes. Quand on est Réseau Entreprendre, on est dans la création ou dans la reprise d'entreprise. Donc c'est la phase de lancement active. Quand on est avec 60 000 rebonds, on est dans la phase plus complexe du rebond, mais qui reste favorable. Encore une fois, pour moi, création, reprise, rebond, c'est la même philosophie.
C'est
vrai qu'avant le rebond, il peut y avoir une période un peu différente, mais le terme important, c'est rebond.
C'est ça, absolument.
Et tout à l'heure, j'ai retrouvé entre-temps le nom du dirigeant qui était dans le Val d'Oise, il s'appelait Monsieur Hervé Le Seine. Il est toujours, je crois, président du groupe Bob. Et à l'époque, il avait une entreprise d'agroalimentaire dans le Val d'Oise. Et je parle de ça en 2001, vous voyez, il y a 20 ans. Et en 20 ans, il avait connu un échec, un très beau groupe agroalimentaire qui s'était effondré comme ça, et il a lancé l'association qui existe toujours et qui s'appelle recréer.
D'accord.
On était dans le même esprit.
Oui,
c'est
absolument,
recréer.
Absolument.
Et donc, on avait accompagné cette aventure à l'époque. Donc, tout ça pour expliquer qu'il y a un écosystème, et je vais terminer là-dessus, dans le Val d'Oise, qui est très sain, qui est très favorable. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui s'engagent avec passion, qui passent du temps, et nous, on est admiratifs, et un peu louangeurs, mais c'est un peu ça. On est vraiment très impressionnés par la capacité capacité des femmes et des hommes de ce territoire à donner de leur temps, de leur énergie, malgré la charge de travail qui est considérable quand on est un dirigeant d'entreprise, trouvent encore du temps pour venir aider les autres, accompagner, transmettre. Et c'est passionnant. Et je voudrais en profiter, avec Frédéric, on en parlait tout à l'heure, de saluer à l'occasion de votre émission un des dirigeants qui nous a quittés tout récemment, la veille du Nouvel An, malheureusement, dans un accident de voiture dans le Val d'Oise. C'est Thierry Poignant, que l'on connaissait bien, qui était venu avec le CEVO dans plusieurs opérations de promotion à l'international, sur des salons professionnels, y compris au Japon, en Serbie et ailleurs. Et donc, on a vraiment été très, très touchés par sa disparition. Et comme c'était lui aussi un homme extrêmement engagé, il était président d'une association d'industriels, de chefs d'entreprise dans l'Est du Val d'Oise, qu'il portait avec beaucoup d'énergie. Il était impliqué à la CPME, etc., etc. Mmh. Je voulais lui rendre hommage parce que ça nous a évidemment beaucoup peiné.
Ça nous a affecté
d'apprendre,
tous, oui.
D'apprendre son décès brutal. Voilà.
Merci,
oui, c'était aussi le vice-président commerce de la CPME.
Export.
Et on a tous en plus une petite affection pour Thierry parce qu'il vendait des produits particulièrement agréables.
Oui, de l'Armagnac.
De l'Armagnac et il en parlait, avec passion extrêmement bien. Et je crois qu'on a tous quelques bouteilles d'Armagnac de lui, donc on continuera à penser à lui.
J'ai eu l'occasion de goûter, moi qui ne bois pas vraiment d'alcool, je l'ai trouvé. Voilà, absolument. Et Thierry Poignant, que j'avais eu l'occasion de recevoir au mois de juin, dans le cadre de la CPME pour le club export. Et le hasard avait voulu que, comme pendant les vacances de Noël, il n'y avait pas d'émission, j'avais programmé, mais avant son décès, bien sûr, on avait programmé une rediffusion avec lui. Donc voilà.
Il était aussi très impliqué dans la préparation du salon Effervescence.
Oui, c'est vrai. Merci Jean-François Benon d'avoir eu cette pensée. Paul Nathan, vous avez 2 minutes pour me faire une petite conclusion.
Alors, 2 minutes, en 2 minutes. On n'arrête pas de parler du CEVO,
oui.
Mais dans l'acronyme, CEVO, c'est expansion économique.
Ah, très bien.
Et ça, il faut le répéter. Donc, du coup, entre entreprendre, expansion économique, le lien est là. Il est très clair. Après, deuxième point, il faut pas oublier qu'on est le plus jeune département de France.
C'est vrai.
Et là, on voit bien qu'il y a un potentiel de création d'entreprises à tous les niveaux. Il y a des pôles universitaires importants dans le Val d'Oise. Et tout ça, je reviens et je l'ai dit, Jean-François l'a dit aussi, cette notion d'écosystème fait que ça fait un tout cohérent qui est là pour créer, mais aussi pour préserver l'emploi dans les années qui viennent et qui permet d'augurer d'un beau futur, oui, pour notre département. Dernier point que je veux pas oublier, c'est effectivement, comme l'argent est le nerf de la guerre, on a aussi un partenariat fort avec la BPI. Et donc là aussi, la BPI nous aide ou aide les créateurs à réussir leurs projets.
Merci beaucoup, Paul. Je rebondis sur ce que vous venez de dire avec aussi Jean-François Benon, qui était venu dans l'émission pour parler de cet intérêt à ce que les gens travaillent dans le Val d'Oise et n'aillent plus ailleurs que dans le Val d'Oise.
Tout ce qui peut permettre d'éviter ce qu'on appelle techniquement les migrations alternantes, c'est-à-dire tout ce qui encombre l'autoroute A15, autoroute A1 le matin, ou tout ce qui fait que les transports en commun sont surchargés, etc. La qualité de vie, et on sait bien dans les entreprises, dans les organisations, qu'un salarié bien dans sa peau, qui est reposé, qui n'habite, qui arrive à venir assez facilement à son travail le matin, il sera doublement efficace. C'est totalement incohérent d'avoir encore
sens.
En Île-de-France,
ouais,
des gens qui font 2 heures de transport le matin et le soir. Et puis ça surcharge nos infrastructures, tout ça est pas sain. Écologiquement, c'est totalement inacceptable. Donc on voit bien tout l'intérêt qu'il peut y avoir à cette notion d'ancrage territorial et de rapprocher l'emploi du travail. C'est un atout, c'est une de nos actions.
Le Made in 95.
Merci. Oui, absolument. Merci Jean-François. Alors du coup, j'ai Frédéric, une minute pour faire une conclusion.
Ah bah écoutez, je suis très content d'avoir eu Paul et d'avoir Jean-François. Le CEVO, je voudrais rajouter un petit point, c'est que chaque chef d'entreprise peut les solliciter. Il y a une équipe qui est assez extraordinaire et le CEVO, à chaque fois qu'ils voient des contacts et qui peuvent être utiles pour des entreprises qu'ils ont côtoyées, ils n'hésitent pas à mettre en relation. Donc c'est quelque chose, faut y aller pour voir et parce que c'est vraiment un outil de développement. Voilà, on voit le réseau entreprendre, on est vraiment très proche. Tout ça fonctionne encore une fois parce que les hommes et les femmes qui sont dans ces réseaux se côtoient et on est complémentaires et on est capable aussi d'envoyer quelqu'un qui viendrait nous voir et qui est pas complètement dans notre logique de le renvoyer vers le copain parce qu'il sera mieux servi que par nous. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. N'hésitez pas à franchir les portes des uns ou des autres. C'était ça un peu mon message sur réseau 60 000 rebonds par rapport à recréer le réseau 60 000 rebonds est là pour aider les gens à rebondir, qu'ils soient dans un poste de salarié ou une création d'entreprise. Oui. Ça n'est pas une fin de création d'entreprise. Il y en a un sur deux qui devient salarié, il y en a un sur deux qui fait de la création d'entreprise. Donc le spectre est un peu plus large.
C'est ça.
Et le temps que chacun trouve finalement sa chaussure à son pied pour rebondir. Voilà.
Merci Frédéric et merci d'avoir rappelé que si des chefs d'entreprise nous entendent, hommes ou femmes, et que leur entreprise malheureusement vient d'être liquidée, eh bien qu'ils n'hésitent pas à contacter 60 000 rebonds 95.
Tout à fait, faut pas hésiter déjà à téléphoner au moins une fois.
Voilà, l'économie en direct est terminée. Retrouvez son podcast sur le site et l'appli de IDFM Radio. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci Christophe pour la technique. Lundi, on retrouve Paul pour l'animation de l'économie en direct. Et moi, je vous retrouve mardi pour un nouveau numéro. Bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches.
Appelle, tu gagnes, que déjà tu perds. Appelle, t'arrives et déjà tu repars. En 24 heures, tu fais le tour de la terre. En un quart d'heure, tu peux devenir une star. Un feu rouge dit pourquoi t'es vénère. Tu te presses mais pour aller nulle part. Tu regardes les fusées dans les airs. Tu vas vite mais t'es tout le temps en retard. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde court après le temps. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement. Fais un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. À peine on s'aime et déjà on se quitte. Pas si facile de suivre le rythme. On court mais on court dans le vide. Le cerveau tourne comme une usine. Toi t'essaies de suivre la lumière. De jamais regarder en arrière. De penser danser plus vite que ton ombre. T'as rien vu mais t'as fait le tour du monde. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde court après le temps. À quoi ça sert?